VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition du Monde aujourd'hui. 18h30, temps universel. Nous sommes mardi 12 décembre 2017 au sommaire. Affrontement meurtrier au Soudan du Sud, état d'urgence dans le centre après la mort de plus de 170 personnes. Nouvelle grève des enseignants au Togo à la veille des manifestations à l'appel de l'opposition. Le président Donald Trump contre-attaque après que des femmes qui l'accusent de conduite inappropriée ont demandé au Congrès d'ouvrir une enquête. L'auteur de l'attaque d'hier à New York a été inculpé de menaces terroristes. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Et tout d'abord, le journal. Au Togo, les enseignants des établissements scolaires publics ont entamé une nouvelle grève de 3 jours pour exiger une augmentation de leurs primes et indemnités. La semaine dernière, une grève portant sur les mêmes revendications avait déjà paralysé l'enseignement public durant 4 jours et les syndicats ont décidé de reconduire leur mouvement, affirmant ne pas avoir été entendus par le gouvernement. De son côté, l'opposition a prévu de redescendre dans la rue mercredi, jeudi et samedi. En Côte d'Ivoire aussi, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont entamé ce mardi une grève illimitée pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Le mot d'ordre de grève était très suivi aujourd'hui et l'université était probablement à l'arrêt selon le syndicat des étudiants, la FESI. Les heures supplémentaires non payées représentent 873 millions de francs CFA selon les chiffres de l'administration. Le gouvernement burundais a imposé une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020 dans ce pays d'Afrique centrale plongé depuis plus de 2 ans dans une profonde crise politique. Les ministres burundais de l'Intérieur et des Finances ont présenté une ordonnance commune qui institue cette contribution. L'opposition dénonce un vol organisé. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques a dénoncé un véritable impôt qui ne dit pas son nom et qui est totalement injuste et illégal et qui est tout sauf volontaire. Au Soudan du Sud, l'état d'urgence est décrété dans le centre après la mort de plus de 170 personnes dans des affrontements pour du bétail. Le point avec Blanche Sanou.
Le gouvernement de Juba a déclaré l'état d'urgence dans la région avec le déploiement de soldats. Les autorités locales ont été débordées par les affrontements entre des clans d'éleveurs qui s'attaquent à coups de mitrailleuses et lance-grenades pour voler du bétail et se livrent au pillage. Un bilan fait état de quelques 200 blessés, des maisons brûlées et des habitants forcés de fuir leur village. Selon le porte-parole présidentiel Atteni Wek Atteni, l'état d'urgence vise à mettre fin à la violence. Les communautés pastorales au sud du Soudan mènent régulièrement des attaques suivies de représailles. Cette tension accentue le climat d'insécurité dans ce pays, théâtre d'une guerre civile depuis fin 2013.
De violents affrontements ont également eu lieu depuis dimanche à Ndassima, dans le centre de la Centrafrique. Le chef d'un groupe armé anti-Balaka a été tué dans les combats. Les affrontements qui ont fait plusieurs morts opposent des membres du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique de Nouridine Adam à des anti-Balaka du RDR. Selon un rapport de l'ONU publié en octobre, les combats dans le centre-est du pays fin 2016 et début 2017 ont fait plus d'une centaine de morts civiles. Les drones américains ont encore frappé en Somalie leur cible, un véhicule transportant des explosifs. L'attaque est survenue à 65 km de la capitale Mogadiscio. Selon AFRICOM, le centre de commandement américain pour l'Afrique, le véhicule visé constituait une menace pour Mogadiscio. Par ailleurs, le gouvernement somalien affirme avoir rempli toutes les conditions requises pour bénéficier de l'assistance du FMI et de la Banque mondiale et que ces deux institutions devraient bientôt annoncer la bonne nouvelle. Le sommet sur le climat a ouvert ses portes à l'ouest de Paris. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont présents pour soutenir une action depuis le retrait annoncé des États-Unis de l'accord de Paris de 2015. Le point avec Raissa Girondin.
Sous les airs d'une COP 21 bis, le One Planet Summit rassemble plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. Le président français, Emmanuel Macron, est l'hôte de cette rencontre.
On doit tous bouger parce qu'on aura tous à rendre compte.
Ce sommet consacré au financement cherche d'abord à s'assurer de qui va payer la note et comment. Les pays du Nord avaient promis 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 aux pays du Sud, moins pollueurs et plus affectés par le réchauffement climatique. Au titre des grands absents, le président Donald Trump, qui a décidé de sortir de l'accord de Paris, mais l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, le gouverneur de Californie ou le milliardaire américain Bill Gates sont sur place. D'ailleurs, la fondation Bill Gates a promis de financer 315 millions de dollars pour soutenir la recherche en agriculture afin d'aider les agriculteurs les plus pauvres, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Bangladais de 27 ans, auteur de l'attaque hier à la gare routière de Port Authority à New York, a été inculpé de menaces terroristes selon la police de New York. Akaye Ola est aussi accusé de soutien à un acte terroriste et détention illégale d'armes. Les précisions de Jacques Aristide.
Originaire de Chittagong au Bangladesh et habitant aux États-Unis depuis 2011, Akaye Ola a été arrêté hier, juste après la déflagration de l'engin qu'il portait sur lui, dans un passage souterrain très fréquenté qui relie Times Square à la gare routière de Port Authority. L'engin, qualifié de rudimentaire, n'a que partiellement explosé, ce qui explique le bilan de 3 blessés légers malgré l'heure de pointe. Électricien et ex-chauffeur de taxi, il a lui-même été blessé dans l'explosion et hospitalisé. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a indiqué hier que le suspect avait été inspiré par des groupes djihadistes et s'était radicalisé sur Internet. D'après plusieurs médias américains, Akaye Ola a indiqué aux enquêteurs qu'il voulait se venger des frappes américaines contre le groupe État islamique en Syrie et ailleurs. Ola vivait à Brooklyn avec sa mère, sa sœur et 2 frères et possédait une carte verte de résident aux États-Unis. Il a un casier judiciaire vierge dans son pays où il s'est rendu la dernière fois le 8 septembre, selon le chef de la police du Bangladesh.
Toujours aux États-Unis, une élection sénatoriale cruciale se déroule en Alabama. Un scrutin dominé par les accusations d'agression sexuelle contre le candidat républicain Roy Moore. Le point avec John Lindon.
Les démocrates veulent profiter du scandale créé par les allégations d'attouchement sur mineurs à la fin des années 70, accusation que Roy Moore a rejetée en bloc. Âgé de 70 ans, Roy Moore a été élu 2 fois président de la Cour suprême de l'Alabama. Il en a été déchu par 2 fois pour avoir refusé de retirer une statue en l'honneur des 10 commandements et pour avoir défié la Cour suprême des États-Unis en refusant d'appliquer sa décision sur le mariage homosexuel. L'équilibre du Sénat américain est en jeu et Donald Trump a apporté son soutien à Roy Moore. Le candidat démocrate Doug Jones, ancien procureur fédéral de 73 ans, devra mobiliser la base démocrate et la minorité noire et une partie des républicains. Les résultats sont attendus ce soir à la fermeture des bureaux de vote.
Le président américain Donald Trump dénonce des histoires, selon lui, inventées des femmes qu'il accuse de comportements sexuels déplacés. 3 femmes qui avaient déjà mis en cause Donald Trump durant la campagne se sont retrouvées ensemble hier sur un plateau de télévision. Elles réclament désormais au Congrès l'ouverture d'une enquête sur le président américain Donald Trump. L'incendie qui ravage le nord de Los Angeles depuis une semaine continue à détruire la végétation malgré le déploiement de milliers de pompiers déployés qui ont néanmoins ralenti sa progression. Le principal brasier, baptisé Thomas, a brûlé près de 95 000 hectares et n'est contenu qu'à 20% selon un bilan de l'Agence californienne de lutte contre les incendies. La Russie a entamé ce mardi le retrait partiel de ses troupes déployées depuis 2 ans en Syrie, conformément à l'annonce de Vladimir Poutine qui a déclaré leur mission brillamment accomplie. La télévision russe a retransmis toute la journée des images de soldats débarquant sur le sol russe. Certains étaient accueillis par une petite foule scandant des slogans patriotiques par des hauts gradés de l'armée. Le mandat du secrétaire général de l'OTAN a été renouvelé jusqu'en 2020. Les pays membres de l'Alliance ont assuré Jens Stoltenberg de leur pleine confiance sur fond de tension avec la Russie de Vladimir Poutine. Les Alliés ont pleinement confiance dans sa capacité à poursuivre la tâche qu'il accomplit, avec détermination pour faire avancer l'adaptation de l'OTAN face aux défis de sécurité du XXIe siècle, peut-on lire dans un communiqué de l'OTAN publié ce mardi. Voilà, c'est donc cette information qui met fin à cette édition. Et tout de suite, on passe à la Minute Éco, l'actualité économique sur le continent, présentée ce soir par Eric Manizakiza.
Le FMI, satisfait par les efforts d'assainissement des finances publiques et les réformes structurelles au Bénin, la directrice du FMI, Christine Lagarde, a promis de soutenir le plan quinquennal le béninois.
Là, je me réjouis que les réalisations soient en place et qu'on ait pu, dans les délais prévus, tenir le conseil d'administration et débourser la tranche de financement d'à peu près 22 millions de dollars. C'est ça le vrai bonus. C'est le respect des engagements de part et d'autre.
Christine Lagarde à Cotonou, au Bénin. Le Maroc injecte près de 1,5 milliard de dollars dans l'industrie automobile. Des constructeurs automobiles français vont implanter 26 usines de sous-traitance. Ces investissements vont faciliter la création de plus de 11 000 emplois directs. L'industrie automobile a atteint un chiffre d'affaires à l'export de plus de 7 milliards de dollars et vise plus de 10 milliards de dollars d'ici 2020. Enfin, aux États-Unis, une enquête de Transparency International sur la perception de la corruption indique que 44% des Américains interrogés estiment que la corruption est un problème endémique à la Maison-Blanche. En 2016, la moitié des sondés estimaient que le gouvernement avait échoué dans sa lutte contre la corruption. Ils sont désormais 70% à penser ainsi.
La page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Nouvelle défaite pour le WAC Casablanca à la Coupe du Monde des clubs.
Et oui, le Wydad Athletic Club battu à Abu Dhabi dans le match pour la cinquième place. Les Japonais d'Urawa s'imposent 3-2. La première demi-finale oppose ce mardi les Mexicains de Pachuca, tombeurs des Marocains face aux Brésiliens de Grêmio. Autre demi-finale, ce sera demain entre Al Jazeera Abu Dhabi, le club du pays organisateur, face au Real Madrid, favori pour cette compétition.
Malgré la suspension, la Russie va laisser ses athlètes participer aux JO d'hiver 2018.
Les instances olympiques russes ont confirmé la participation sous bannière olympique des sportifs russes aux Jeux olympiques d'hiver de 2018. Une semaine après la suspension du pays par le Comité international olympique, le CIO a décidé, souvenez-vous, la semaine dernière, d'exclure la Russie de ces JO en Corée du Sud, n'autorisant à participer les sportifs russes propres que sous de strictes conditions sous la bannière olympique, en raison évidemment du scandale de dopage institutionnalisé frappant le pays. Au total, environ 200 athlètes russes pourraient participer à ces Jeux. C'est un chiffre équivalent à ceux de Sochi en 2014.
Jeux olympiques 2020, le CIO juge que Tokyo sera à l'heure.
Les sites olympiques de Tokyo seront prêts pour 2020, a jugé le Comité international olympique, au début d'une visite de 3 jours au Japon. Fin 2015, le coût du futur stade olympique avait provoqué l'indignation de l'opinion publique et poussé le gouvernement à abandonner le projet initial de l'architecte Zaha Hadid pour un autre près de 2 fois moins cher, conçu par l'architecte japonais Kengo Kuma.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston toujours en forme après sa 6e victoire d'affilée contre la Nouvelle-Orléans, 130-123. Ça va bien également pour Golden State face à Portland, 111-104. Boston, premier de la conférence Est, a chuté à Chicago, 85-108. Et puis la série de 6 victoires de suite des Toronto Raptors a pris fin hier face aux Clippers de Los Angeles, 91-96.
Merci Nicolas.
Retrouvez tous les jours sur Radio Polé FM l'équipe VOA Afrique et vos programmes favoris. Le Monde aujourd'hui, À votre avis, RM Show et votre leçon d'anglais sur 91.4 FM à Goma. Radio Polé FM, station partenaire de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Le président burundais Pierre Nkurunziza a lancé ce mardi les activités relatives au projet de référendum constitutionnel dans la province de Gitega. Ce texte approuvé en Conseil des ministres sera ensuite soumis au vote populaire, mais certains ne veulent pas qu'on touche à l'accord de paix et de réconciliation signé en 2000 à Arusha. Reportage de Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Un projet d'amendement de la Constitution qui fera l'objet d'un référendum populaire, une date qui n'est pas encore précisée, a été dernièrement approuvé par le Conseil des ministres au mois d'octobre de cette année. Le président burundais Pierre Nkurunziza a lancé officiellement les activités relatives à ce référendum dans la commune de Bugendana, province de Gitega, au centre du Burundi, devant tous les administrateurs et gouverneurs du pays. Désormais, il y aura un président qui va légiférer, un premier ministre, chef du gouvernement, les deux issus de la même famille politique et un vice-président d'une autre formation politique, selon le dernier Conseil des ministres. 77 articles de la Constitution vont changer, tandis que 3 vont être enlevés. Le président Pierre Nkurunziza a appelé les présidents des partis politiques à avoir un comportement exemplaire.
Au président des partis politiques, nous leur demandons d'afficher un comportement exemplaire, digne de véritables démocrates qui aiment leur pays. Ils ne doivent pas non plus travailler contre ces activités de lancement du référendum de la Constitution. Les politiciens doivent expliquer ce projet en respectant les lois en vigueur.
Les membres de la société civile burundaise ne doivent plus non plus se mêler avec la politique, selon le président burundais.
Nous avons vu dans un passé récent et même aujourd'hui que la société civile ainsi que les organisations apolitiques collaborent avec certains politiciens qui se sont égarés en voulant faire tomber le pays dans le précipice. Nous leur demandons d'être coopératifs en expliquant ce projet de référendum à la population sans se mêler de la politique, car chacun doit faire son travail.
Et pour Agathon Gwasa, vice-président de l'Assemblée nationale burundaise qui avait reçu l'invitation mais qui ne s'est pas déplacé pour la circonstance, des zones d'ombre subsistent.
La Constitution, oui, les modifications, d'accord, mais pour satisfaire à quel besoin? Si c'est juste pour que le président Nkurunziza soit président à vie, quelle sera la valeur ajoutée dans la vie de cette nation? Si c'est pour qu'on aille vers un monopartisme d'État ou de fait, ça sera quelle valeur ajoutée comme modification de la Constitution? Donc voilà tout un tas d'interrogations qu'on peut se faire et qui malheureusement ne vont pas trouver de réponse dans le format de la Constitution que l'on projette soumettre au référendum bientôt.
Il est à rappeler que le quatrième round des pourparlers inter-burundais d'Arusha n'a pas permis d'obtenir un accord entre les protagonistes politiques burundais et les sujets qui fâchent, dont la question des mandats présidentiels, reste légion. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
C'est la ville de Gawa qui accueille cette année la commémoration officielle de la fête nationale de l'indépendance du Burkina Faso. Cette région qui fait face à un manque d'infrastructures pour booster son économie doit aussi faire face à un phénomène, l'orpaillage dont les effets sont contrastés pour le développement de la région. Le reportage à Gawa de notre correspondant Issa Napo.
Nous sommes ici sur le site d'orpaillage de Dikondi, à quelques encablures de la ville de Gawa. C'est la capitale de la région du Sud-Ouest et chef-lieu de la province du Pony, devenu un site à ciel ouvert, tant l'orpaillage a pignon sur rue. Ils sont plus d'une centaine de personnes chaque jour à creuser, concasser et laver pour trouver de l'or dans une certaine vie communautaire, explique Yaya Traoré, alias Koroba, orpailleur.
L'or a fait beaucoup de choses. Beaucoup, ils ont gagné, ils ont payé des voitures même, des motos. Moi-même, seulement j'ai payé des motos. Je suis en train de construire même. Ici, si on trouve que quelqu'un qui est malade, on fait réunion. Chacun n'a qu'à donner contribution. On va prendre la personne-là, aller à l'hôpital soigner. Quand on va concasser comme ça, aller à la machine, écraser, venez laver, on met au mot et puis on mélange. Ça devient comme banco. Tu finis maintenant et c'est là-bas, tu mets mercure et tu frottes pour que le mercure là s'attrape. L'or là. Mais sans mercure, l'or là, ça ne peut pas sortir.
L'exploitation artisanale de l'or ici est une préoccupation majeure pour la population autochtone. Les conséquences de la déscolarisation des jeunes, des conflits et maladies en tout genre reviennent fréquemment, soutient Drissa Tou, directeur provincial en charge de l'action sociale et de la famille de la province.
C'est une activité qui est la source même de conflits. intergroupe ou intercommunautaire. Si ça devient un conflit intercommunautaire, ça nous revient sous forme de personnes sinistrées ou bien de personnes touchées par une crise à gérer aussi. Et ces orpailleurs-là, nous les sensibilisons à la nécessité de ne pas utiliser les enfants. Je pense qu'il y a le départ qu'il faut faire entre les travail socialisant et les pires formes de travail qui sont interdites par la loi. Mais la réalité est triste. À chaque fois qu'on se rend sur un site, on ne peut pas ne pas trouver des enfants en train de travailler. Il faut réellement des moyens financiers aussi pour pouvoir régulièrement faire ces sorties de sensibilisation.
Un phénomène qui renvoie des effets contraires que ceux de résorber le chômage, comme cela pouvait être attendu, souligne le gouverneur de cette région du sud-ouest de Burkinabé, Taxé Banitiema.
Quand vous allez sur les sites d'Orpaïal, vous pouvez trouver 20 000 de nos jeunes qui travaillent là-bas. Et ce sont des personnes qui se nourrissent essentiellement de l'Orpaïal et aussi qui rejouent du coup la question du chômage. Il devient un problème parce qu'il est anarchique, parce qu'ils utilisent des produits dont ils n'ont pas la maîtrise. Je pense au cyanure, je pense au mercure qui empoisonne les eaux et qui empoisonne notre environnement. Les jeunes qui devraient se scolariser, ils sont en train de déserter les écoles. Les problèmes ne manquent pas et souvent même ça entraîne des morts d'hommes. Mais il faut que la présence de l'État, des forces de l'ordre là, amoindrisse les conséquences de ces incidents-là. Et c'est là où nous demandons que les plus hautes autorités d'État s'impliquent pour que nous soyons présents quand il faut l'être.
C'est un véritable village qui s'est créé autour de ce site d'orpaillage où les habitants essaient autant que faire se peut de travailler à la sueur de leur front afin de sortir de la pauvreté. À charge aux autorités de travailler à ce que les règles soient respectées et que les enfants, les élèves, les étudiants ne délaissent pas leur classe pour venir sur le site. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'État hébreu s'en réjouit, mais le reste de la planète s'inquiète. Dans quel contexte s'inscrit cette décision du président Donald Trump? Quelles en sont les conséquences? Que signifie-t-elle pour le processus de paix au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien? Et pourquoi le statut de Jérusalem est-il à ce point délicat? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Et on parle de cette histoire insolite à Londres. C'est un taximan somalien qui est au cœur de cette affaire qui fait le buzz dans la capitale britannique. Il a trouvé une mallette contenant 50 000 euros dans son véhicule et a décidé de le rendre au propriétaire. Ce reportage de Ridwan Haji Adiwali est rendu par Solange Nyamoulissa.
Un chauffeur de taxi à Londres est devenu le chauffeur le plus populaire après qu'il ait retourné 50 000 euros oubliés dans son véhicule. Mohamed Ahmed, 59 ans, nous dit que l'argent appartenait à un couple indien qu'il avait pris dans un hôtel à Londres.
I picked up, two passengers.
J'ai pris deux passagers, un homme et sa femme, à l'hôtel Taj. Je les ai déposés sur la rue Régence. La femme a oublié son sac à main Gucci.
Ahmed dit avoir découvert le sac contenant l'argent après avoir déposé son prochain client.
Je ne l'ai pas ouvert immédiatement. J'avais une autre course. Je suis parti jusqu'à l'est de Londres. Dès que j'ai déposé mon passager, c'est à ce moment que j'ai ouvert le sac et j'ai trouvé l'argent.
Il ne pouvait pas le croire, mais il n'a pas hésité une seconde à retourner l'argent à son propriétaire.
J'ai décidé de retourner l'argent et de tout remettre au propriétaire.
Les employés de l'hôtel ne pouvaient pas croire que quelqu'un puisse rendre une telle somme.
Dès que je suis arrivé, le concierge les a appelés tout de suite et leur a dit « Le chauffeur est de retour avec votre sac, revenez vite à l'hôtel. » C'était émouvant pour eux parce qu'ils n'avaient jamais perdu quelque chose de cette valeur. S'il t'arrive de le perdre, tu es certain à 70% de ne pas le retrouver. Le mari et la femme m'ont remis une récompense de 450 livres.
Ahmed dit avoir remis cette récompense à la population somalienne affectée par l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio le 14 octobre dernier. Il s'est dit prêt à refaire le même geste si l'occasion se répète et il le fera, dit-il, sans poser de questions. L'association de taxis s'est félicitée de sa décision de retourner l'argent parce qu'elle veut montrer au public combien ses chauffeurs sont honnêtes.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et on évoque ce qu'on appelle les bitcoins, dont l'émission a commencé en 2009 et qui ont flambé cette semaine au point de dépasser les 17 000 dollars l'unité. Ce sont des unités monétaires virtuelles décentralisées que l'on peut échanger sur Internet. Ils sont stockés dans un portefeuille électronique. Et Kiabadou a joint à Paris un spécialiste de la finance qui a requis l'anonymat.
Bitcoin, c'est un actif qui est similaire à des actions, mais ce ne sont pas des actions. Bitcoin aujourd'hui est ce qu'on appelle une monnaie digitale. En anglais, c'est ce qu'on appelle cryptocurrency.
Quelle est la fiabilité de cette monnaie qui est virtuelle?
Ce qui fait que les acteurs ont confiance en cette devise, c'est le protocole informatique, le code sous-jacent de Bitcoin qui garantit la confiance des acteurs en cette devise. C'est-à-dire, il n'y a pas une banque centrale, contrairement à des fiat currency, à d'autres devises comme le dollar ou l'euro, qui sont garants de l'émission de cette devise. En termes techniques, pour pouvoir avoir un hacking ou pour pouvoir, si vous voulez, arbitrer ou déstabiliser cette devise, il faudrait que plus de 50% de tous les intervenants en même temps décident d'une action commune, ce qui est très peu réaliste au vu du nombre d'intervenants.
Alors là, vous expliquez quelque chose de très intéressant, puisque nous, on aimerait savoir, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, quels sont les avantages et les limites de ce procédé.
Bitcoin agit exactement de la même manière que l'or, sauf que l'avantage par rapport à l'or, c'est qu'il n'y a pas de masse. Le problème de l'or, c'est qu'à partir de 60 000 euros, ça commence à déjà représenter 2 kilos. Pour envoyer des kilos d'or à quelqu'un, pour payer avec de l'or, etc., vous voyez que la masse rend le processus très complexe.
Est-ce que c'est facile de souscrire?
Oui, c'est facile de souscrire. Je veux dire, il y a beaucoup de plateformes qu'on appelle ça des exchanges. Vous créez un compte et vous traitez. C'est pas compliqué, mais ce qui prend du temps, c'est d'accéder au marché via des devises locales. C'est-à-dire, en fonction des pays, aux États-Unis, je sais que c'est très facile, mais en France, en l'occurrence, il n'y a pas de canaux, de moyens qui permettent de transformer des euros en bitcoin facilement.
Et en Afrique, avec le franc CFA?
En Afrique, c'est possible. Tous les pays en voie de développement ou les pays plutôt émergents comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, etc., c'est même beaucoup plus avantageux au vu du coût des services financiers traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a énormément de villages où aujourd'hui il n'y a pas d'une agence bancaire commerciale où les gens peuvent aller faire des virements, etc. Aujourd'hui, avec un téléphone portable et une application, ils peuvent avoir accès à ces services financiers qui, par ailleurs, leur coûteraient très cher au vu de leur distance géographique ou autre.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami, à la console Wagner Robert, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.